Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Kassai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. La proposition des lois modifiant et complétant la loi sur l'agriculture a été adoptée la semaine dernière au Sénat. Les principales modifications ont notamment pour objectif l'ouverture du secteur agricole à tous les opérateurs économiques nationaux et étrangers, l'accès au Fonds national de développement agricole réservé aux Congolais ainsi que l'exonération de l'impôt sur les revenus professionnels en faveur de l'exploitant agricole familial et des types familiales. Qu'en pensez-vous? Rejoignez-nous au 081-890-4969-0997-06-4969 pour intervenir en direct. Le débat, c'est aussi sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Nico Kalamba y réalise ce magazine mis en onde par Mimi Kindou et Pierrot Elameji. C'est moi, j'ai le réel plaisir de vous les présenter sous la supervision de Martin Sebujangwe. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Paroles aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Rappelons que la loi numéro 011/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture a été promulguée dans le souci de combler l'absence d'un cadre légal propice à la relance du secteur agricole et d'impulser ainsi son développement. C'est ainsi qu'une modification a été initiée pour arriver à porter des innovations telles que les éléments clés que nous allons vous présenter dans cette émission. Le premier, c'est l'ouverture du secteur agricole à tous les opérateurs économiques nationaux et étrangers. C'est que les opérateurs économiques étrangers pourront désormais investir dans le secteur agricole. La réduction de 35 à 20% du taux d'imposition sur les revenus professionnels des exploitants agricoles industriels. La promotion d'une classe moyenne congolaise. L'accès au Fonds national de développement agricole réservé aux Congolais. L'exonération de l'impôt sur les revenus professionnels en faveur de l'exploitant agricole familial et de type familial, ainsi que la préservation des droits fonciers acquis. Voilà les modifications. Pensez-vous que ces modifications peuvent apporter un bonus dans les investissements agricoles et surtout qu'on considère l'agriculture comme le moteur du développement de notre pays? C'est le débat au centre de notre émission. Vous êtes nombreux à commenter ces sujets sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Nous sommes avec vous en direct en FM. Adrien, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Paroles aux auditeurs. Adrien, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Alors, vous avez dit sur la page Facebook que le problème du secteur agricole n'est pas juridique, mais plutôt une question politico-managériale. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Effectivement, comme nous l'avons dit dans notre commentaire, le problème du secteur agricole dans notre pays n'est vraiment pas un problème de loi, mais c'est plutôt un problème d'une politique ainsi que de management dans le secteur agricole. Rappelons que notre pays est l'un des pays les plus vastes, avec des vastes étendues des terres arables. Dans notre pays, on n'a même pas besoin des engrais chimiques pour essayer de cultiver. Il y a plusieurs hectares qui peuvent être exploités à cet échéant. Mais malheureusement, nous nous rendons compte que le gouvernement n'a pas une politique vraiment assidue dans le secteur. Il suffit tout simplement d'aller dans des zones rurales pour voir comment est-ce que notre terre est tellement riche et notre terre est disposée à recevoir toute catégorie d'agriculture. Autrement, le climat, nous avons un pays qui a deux climats, ou qui a un climat très favorable avec deux saisons, et que nous pouvons même essayer de répartir certaines cultures sur base des zones. Parce que nous rappelons ici dans le passé qu'il y avait des provinces qui étaient reconnues sur base de nos productions, notamment le Kivu, que ce soit le Katanga, le Maniema avec le riz. Mais aujourd'hui, cette politique est en train de disparaître. La province orientale, par exemple, elle était connue pour le café, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, cette politique sur le plan de l'agriculture n'existe pas. C'est vrai que nous ne pouvons pas condamner l'élaboration de cette loi, mais nous ne comptons pas que cette loi puisse essayer d'amener quelque chose. Deuxième aspect, c'est aussi l'aspect des tracteurs. Dans un passé récent, le gouvernement avait disponibilisé des tracteurs, des milliers de tracteurs d'ailleurs, qu'on avait donné à des entités ainsi que des personnalités. Mais aujourd'hui, ces tracteurs, on ne sait plus faire le bilan. Pourtant, c'était de l'argent de la République qui débrillait à essayer de booster ce secteur par défaut. Et l'autre aspect, c'est le parc agro-industriel de Bukangalonzo. Le Premier ministre Matata avait investi beaucoup d'argent dans ce domaine. Et on a vu saluer à l'époque même la première récolte qui était vraiment prometteuse et qui avait nourri de l'espoir dans la tête de plusieurs Congolais, et surtout la volonté du gouvernement qui était de répercuter ce programme dans d'autres provinces. Mais on ne sait pas la situation actuelle parce que tous les points de vente qui étaient disponibilisés ici à Kinshasa, on est en train de voir que ces points sont en train d'être repeints à d'autres couleurs qu'on ne sait pas comment identifier. Mmh. Et enfin, pour finir, c'est tout simplement l'aspect de contenir l'exode rural. Parce qu'aujourd'hui, si vous vous rendez compte, Pierrot, le problème qui existe surtout dans le banditisme urbain, c'est le fait qu'on a beaucoup de jeunes qui sont en ville, mais qui n'ont pas de travail. Et ces jeunes-là, généralement, si vous vous rendez compte, ce sont des jeunes qui étaient au village et qui pouvaient être occupés au village. Ils sont ici en ville, ils n'ont pas étudié, ils n'ont rien à faire. Eh bien, ils doivent manger. Comment ils vont le faire? Chacun se débrouille de sa manière et ça devient déjà un fléau sécuritaire. Si seulement le gouvernement pouvait investir de l'argent et mettre une bonne politique, on pouvait résorber même l'inoccupation de ces jeunes-là et les renvoyer dans des milieux où ils pouvaient produire et travailler et ainsi que contribuer à l'économie nationale. Voilà ce que j'avais à dire.
Merci beaucoup, Adrien. Vous pensez que c'est une question politico-managériale? Les terres sont là, les saisons sont là. Mais le problème, ce n'est pas d'avoir des lois, mais c'est d'avoir une politique claire. Merci beaucoup, Adrien. Professeur Ignace, vous êtes à Kolwezi. Si nous partons de ce que Adrien vient de dire tout à l'heure, nous avons des saisons culturelles très favorables. Nous avons la terre très, des millions de terres arables. Nous avons la saison. On peut cultiver n'importe quoi, n'importe où. Beaucoup de choses poussent. Alors, est-ce que le problème aujourd'hui, c'est une question de priorité, de la définition de priorités, ou il y a une question aussi de l'ignorance, si on peut le dire ainsi, professeur Ignace?
Merci beaucoup, vous l'avez dit, je fais mienne les interventions d'Adrien de tout à l'heure. Disons que il se pose un très sérieux problème d'absence de politique générale en matière d'agriculture. Jusque-là, cette politique, s'il y en a une, elle est restée purement théorique. Regardez, cette nouvelle loi, elle est un complément à une loi qui avait déjà été adoptée depuis 2011. Mais faisons le bilan de 2011 à nos jours. Quel est l'impact de la dite loi sur le plan agricole dans notre pays? Je ne fais pas dire que c'est un échec, mais il faut dire qu'il reste trop à faire. On s'est limité à distribuer de où, à distribuer des intrants. Vous constaterez que l'État est quelque peu absent comme modèle ou une référence dans la matière d'agriculture. L'État n'a pas assez d'unités de production. S'il y en a une, on est en train de citer simplement Bukangalonzo. Moi, j'ai dit plusieurs fois qu'il fallait que cela soit implanté dans toutes les provinces pour éviter, comme je l'ai dit tout à l'heure, le ridicule de fois de dépendance avec certains petits pays qui devaient venir prendre chez nous parce que nous avons tous les atouts et cela pouvait faire de nous une grande société de production agricole de la région d'Afrique ou à travers le monde. Je vais dire aussi une chose, c'est que en considérant ce que j'ai dit tout à l'heure, cette loi a le mérite, quel que soit le retard, de rappeler, n'est-ce pas, d'éveiller la conscience, du moins au niveau de l'intention jusque-là, la conscience d'un peuple, le peuple congolais, qui est resté pratiquement éloigné de cette vocation agricole en voulant se présenter sous une autre étiquette du secteur agricole. Alors que si on y avait pensé déjà, si on s'était impliqué, parce que le grand défaut dans notre société, c'est que on parle, mais on ne commence pas. Si on avait vraiment investi, je pense que les faiblesses du secteur minier seraient suppléées ou compensées par ce que rapporterait l'agriculture dans notre pays. En fait, c'est vraiment un sérieux problème. Et si cela va se réaliser, cela répondra, entre autres, aux besoins alimentaires de notre société, mais aussi en évitant les ridicules dont j'ai parlé tout à l'heure. Une chose est vraie, notre société, notre pays, la RDC, est une puissance agricole qui est, si pas négligée, mais au moins étouffée, ou alors les deux à la fois. Nous avons un défi majeur, il faudrait qu'on commence et que l'État soit le modèle même de cela. Je crains une chose, Pierrot. Est-ce qu'on n'est pas en train d'ouvrir un marché aux étrangers? Parce que vous allez voir, avec cette loi, les Chinois, pour ne citer que ceux-là, vont envahir le domaine de l'agriculture comme ils le font avec le secteur minier, et parce qu'eux ont l'argent. Quand on parle de crédit agricole, comme on l'a dit tout à l'heure, vous allez voir que ce sont les officiels qui vont mettre la main dessus pour prendre l'argent, et à un certain moment, rien ne sera donné sur le terrain. Ce sont les étrangers qui vont ouvrir de grands marchés, de grandes fermes pour vendre et gagner de l'argent et ramener cet argent chez eux, alors que le peuple congolais va demeurer dans la même situation. Voilà à peu près comment moi je vois les choses.
D'ailleurs, professeur Ignace, votre inquiétude là a été présentée par le sénateur Jacques Joly, qui estimait que l'ouverture du marché disons du secteur agricole aux opérateurs économiques étrangers, vu qu'ils pourront amener des gros capitaux, et déjà que la RDC a, les gens ont des problèmes sérieux de pauvreté, les gens n'ont pas de moyens pour investir dans le secteur de l'agriculture, et ils risquent de pouvoir s'accaparer des terres, et ceux qui ont la terre risquent de trouver une aubaine du fait que la terre peut exploser, les prix peuvent exploser. Mais alors, professeur, comment on peut arriver à contourner cette inquiétude exactement?
Disons qu'on doit voir les réalités de terrain, entre autres encourager les agriculteurs qui sont là. Aujourd'hui, regardez l'état des routes de dessertes agricoles. Il y a certains produits qui sont en train de se détruire faute de consommateurs parce qu'il n'y a pas de moyens de transport. Quand on parle de... Il y a un ami qui a parlé des anciennes provinces agricoles de notre pays. Quand vous y allez aujourd'hui, la SNCC est par terre, il y a de produits agricoles qui chônent, qui pourrissent. Alors moi je pense que dès le départ, on devait commencer par encourager ces agriculteurs qui sont dans les 500 de notre pays, et cela retiendrait pratiquement, résorberait le problème des gardes rurales. Les gens sont là-bas, ils ont cultivé, il n'y a pas d'acheteurs, il n'y a pas de route. Qu'est-ce qu'ils font? Ils quittent. Et comme on a fait miroiter l'image du secteur minier, les gens ont tendance à quitter. Et le problème, quand on parle de la classe moyenne, ça va rester une théorie parce qu'on a échoué de la mettre en place au niveau des miniers. Donc, comme on l'a dit avec le professeur Angeli, on va beaucoup plus enrichir les investisseurs étrangers et appauvrir davantage les petits paysans qui devaient être encadrés. Et c'est par là que nous devons commencer. Voilà ce que moi je pense.
Merci beaucoup, professeur. Nous faisons un pont avec Amos qui est à Bukavu. Amos, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Est-ce que la loi elle-même...
Studio...
Oui, je disais tout à l'heure, Amos, oui.
Par rapport à ce qu'on dit au débat au studio, je reviens sur ce que j'ai toujours dit. La RDC ne fait pas la honte dans tous les domaines de la vie par manque de bonnes lois ou par manque de bons textes. Mais nous manquons des hommes et des femmes souciés de voir la situation du peuple congolais s'améliorer, et non les gens que nous avons actuellement qui nous servent comme des mercenaires. Et vous savez, quand les sénateurs ont voté cette loi, oui, c'est bon pour la République, mais ça servira à quoi? Parce que nous avons beaucoup de lois, mais qui ne nous servent absolument à rien. À rien. Peut-être que maître de fer, on y allait dire, la RDC a des terres arables qui peuvent même nourrir toute l'Afrique. Une fois ces terres sont valablement exploitées. Malheureusement, nous avons des dirigeants qui ont leur priorité à aller ailleurs et qui se donnent à exploiter l'or, qui s'intéressent aux taxes et à des financements qui viennent d'ailleurs, oubliant que l'agriculture, c'est un domaine qui peut aider la RDC à avancer. Il y a Adrien qui a parlé de tracteurs. Aujourd'hui, tout le monde se demande pourquoi on avait commandé ces tracteurs. Et celui qui était à l'agriculture, qui avait commandé ces tracteurs, aujourd'hui ne s'inquiète de rien. Il a eu l'argent qu'il a pillé parce que à travers ces tracteurs, on a utilisé beaucoup de moyens de la République. Mais aujourd'hui, ces tracteurs, que ce soit dans ma province, ces tracteurs traînent partout. Il y a même des tracteurs qui transportent des briques, d'autres transportent du sable, d'autres transportent des fagots. Voilà la grande question que les gens doivent se poser. Et aujourd'hui, la population de Bukavu ne cesse même d'aller mendier de la tomate. Ça fait la honte du pays. De la tomate au Rwanda, du piment au Rwanda, au moment où la RDC, c'est un pays qui devrait servir tous ces pays de l'Afrique en termes de nourriture, en termes de tout ce qu'on devait chercher, des fruits et autres. Mais aujourd'hui même, les fruits, les mendient au Rwanda, c'est ce qui fait la honte. Moi, je pense bien que nous devrions quand même nous dire, la RDC, si du moins, on avait des dirigeants responsables, des dirigeants qui comprennent réellement que sans l'agriculture, on ne peut aller nulle part. Même les taux de dollars que nous condamnons aujourd'hui. Imaginez-vous, Pierrot, si du moins nous avions des dirigeants qui comprennent qu'il faut beaucoup investir dans l'agriculture, même s'il y aurait des dépréciations de la monnaie étrangère, on ne serait pas dans la situation au sein de laquelle nous vivons aujourd'hui. Mais du fait que nous avons abandonné l'agriculture, et pourtant, c'est elle qui devrait être l'élément moteur, voilà les conséquences aujourd'hui. Je tiens aussi à encourager l'idée de celui qui venait de parler tout à l'heure, qui dit qu'il faut voir l'image de nos routes de desserte agricole. Aucune route de desserte agricole n'est entretenue. Et tout cela prouve à suffisance que nous avons des dirigeants qui ne sont pas venus aider le peuple congolais, mais plutôt qui sont venus s'enrichir au travers des minéraux, au travers des taxes et autres. Voilà pourquoi moi je pense que le peuple congolais devait comprendre que tant que nous n'aurons pas des dirigeants qui apprennent à investir dans l'agriculture, vraiment rien ne peut se faire. Et des Congolais qui se donnent à investir dans l'agriculture, il faut voir les tracasseries des services publics, comment ils ne parviennent pas à faire ce qu'ils doivent faire parce qu'ils sont tracassés par des taxes. Au lieu qu'ils soient exonérés, on veut toujours les tracasser en avantageant.
Mais là, rappelons quand même, oui. Voilà, Amos, si on peut revenir, sur l'exonération, parce que vous avez évoqué la question de taxes. Rappelons que dans la modification de la loi, il y a la réduction de 35 à 20% du taux d'imposition sur les revenus professionnels des exploitants agricoles industriels. Cela veut dire qu'ils ont leur réclamé 35% comme taux d'imposition par rapport à ce qu'ils devaient payer comme impôt, mais on réduit cela à 20%. Mais pour ceux-là qui pratiquent l'agriculture, l'exploitation familiale ou de type familial, et ils sont carrément exonérés de l'impôt sur le revenu professionnel. Est-ce que pensez-vous que les deux mesures peuvent être incitatives, n'est-ce pas, pour faciliter quand même l'investissement dans les secteurs agricoles?
Justement, si ça se fait, malheureusement, il n'y a pas personne pour le faire. Il n'y a pas personne pour le faire, parce que si du moins nous avions des gens qui sont souciés de la bonne gestion du pays, on devait d'abord interpeller celui qui avait gaspillé l'argent de la République en commandant des tracteurs qui ne font pas leur travail aujourd'hui. Mais si vous faites des analyses, c'est lui aujourd'hui qui est l'enfant chéri du pouvoir en place. Voilà pourquoi moi je pense que tout ce que nous pouvons dire, toutes les lois qu'on peut voter aujourd'hui, ne seront absolument rien parce qu'il faut la volonté politique. Il faut des dirigeants responsables qui ont le souci de voir la RDC se développer. Et non, ces aventuriers que nous avons actuellement du sommet à la base.
Merci. Merci beaucoup, Amos. La question, il faut la volonté politique. La loi peut déterminer des éléments clairs, peut donner des indications, mais s'il n'y a pas une volonté, on ne peut pas la mettre en pratique. D'ailleurs, Christophe Lassiri Witambi, qui est avec nous en ce moment sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs, dit l'adoption de la loi, c'est une chose, mais son application, c'est une autre chose. Les agriculteurs terres congolais ont besoin des routes et des sites agricoles. Par exemple, à Rubuga, dans les territoires d'Uvira, au sud Kivu, les gens font plus d'une centaine de kilomètres à la recherche d'un marché. Il leur faut 2 ou 3 jours de marche pour atteindre le marché des Sangué avec les produits sur leur dos par manque de route. On y cultive beaucoup de maïs, des pommes de terre, haricots, ainsi des suites. Christophe Akonkwa, pour lui, l'adoption, il salue l'adoption de la loi et il estime d'ailleurs s'il y a moyen de pouvoir investir aussi dans la sécurité dans les milieux ruraux où il y a beaucoup de gens qui peuvent travailler, qui peuvent cultiver, mais ils sont abandonnés. Les autres sont en proie à l'insécurité comme dans les zones de l'Est et ça devient difficile en ce moment de pouvoir investir dans les secteurs de l'agriculture. Et d'ailleurs, il y a notre ami Gilbert Pétou sur la page Facebook qui estime qu'avoir un budget de 4 milliards dans un pays qui a plus de 80 millions de terres arables, c'est pas possible avec 2 saisons culturelles. On peut faire plus si on a la volonté et l'investissement dans les secteurs de l'agriculture. Marie-Paul, vous êtes à Kisangani. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur les journalistes. Et bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute, Marie-Paul.
Oui, monsieur le journaliste, lorsque vous faites l'analyse minutieuse de la situation économique de la RDC, et cette analyse démontre que seuls les secteurs agricoles et hydrauliques peuvent booster significativement les développements durables de la RDC. Et la difficulté pour la RDC, c'est que les politiques de la RDC ont dépourvu ces pays d'une politique agricole capable de lutter ou de booster le développement du pays. Et voilà pourquoi ils sont en train de faire des commandes, ils sont en train de recommander des choses sans une politique et puis rien ne tourne. Et moi, à mon avis, je trouve que nous devons quitter ce stade-là des textes. Nous devons aller dans les concrets réels des choses. C'est-à-dire, les politiques congolais doit plutôt, et dans un premier temps, essayer de faire une politique qui sera à même d'être réadaptée au flux, bien entendu, des sociétés multinationales, au flux de toutes les autres entreprises qui nous amènent des choses ici, avant de pouvoir commencer à mettre des textes comme des pluies. Moi, je crois que les textes, ce n'est pas le problème des textes, parce que nous avons des textes. Mais le fait qu'il n'y a pas une politique agricole, et tous ces textes-là sont en vrai inefficaces. Moi, je crois qu'on doit d'abord commencer à donner un nouveau souffle au secteur agricole. Et aussi, et c'est en donnant ces nouveaux souffles qu'on va essayer de bien faire les choses pour que le secteur agricole soit un secteur qui va booster, qui sera un secteur qui va booster le développement de la RDC. Au lieu qu'on évolue de texte en texte et en vain, alors que la situation économique ne s'améliore pas, le PIB n'avance pas, et les secteurs agricoles n'avancent pas, tout cela, moi je crois qu'on risque de perdre le temps dans les textes. On doit d'abord commencer par là. C'est là où il y a le problème. La pomme de discorde, c'est là. C'est là où il y a la difficulté. Je crois que dès qu'on a une politique et que on quitte d'abord ce stade-là des textes. Maintenant, on s'intéresse à l'agriculture comme font les autres États, comme font les autres populations du monde. Je crois que la situation sera améliorée, on n'aura pas de pleurs, et les gens auront quand même des choses à manger au lieu que nous puissions toujours aller des textes en texte en vrai. Je crois que ce n'est pas une bonne
chose. Merci. Merci beaucoup, Marie-Paul. C'est très important. Vous avez insisté sur le rôle du secteur hydraulique qui est aussi, qui peut apporter du développement à côté du secteur agricole. Rappelons quand même que dans cette loi, dans la modification, l'article 41 dit ceci: l'exploitant agricole qui ne peut accéder au circuit des distributions d'eau, d'énergie électrique ou des produits pétroliers peut se doter d'une source alternative d'approvisionnement. Et la suite dit ceci: la consommation à des fins d'exploitation agricole de l'eau et de l'énergie produite par l'exploitant lui-même est exonérée de tout droit, taxes et redevances. Voilà quand même, c'est cet article. Rappelons que Parole aux auditeurs se penche aujourd'hui sur la proposition de loi modifiant et complétant la loi sur l'agriculture qui a été adoptée la semaine dernière au Sénat. Quelques modifications. Il y a par exemple l'ouverture du secteur agricole à tous les opérateurs économiques nationaux et étrangers, l'accès au Fonds national de développement agricole réservé aux Congolais, ainsi que l'exonération de l'impôt sur les revenus professionnels en faveur de l'exploitant agricole familial et des types familiales. Qu'en pensez-vous? Plusieurs propositions dans cette émission. Vous pouvez aussi intervenir au 081-890-4969. Marie-Paul, merci d'avoir été avec nous de Kisangani. Tout à l'heure, nous allons accorder la parole à l'ingénieur Valérie. Vous qui vous intéressez beaucoup plus au secteur de l'eau, mais parce que là, la loi lie l'exploitation agricole avec l'exonération pour celui qui veut avoir sa source d'approvisionnement en eau. On va revenir à vous parce que vous avez travaillé beaucoup sur cette question. 081-890-4969.
Vous êtes une femme leader? Vous connaissez une femme leader?
Responsable politique au cadre de l'État, avocat, juge, journaliste, responsable dans la société civile, le monde académique, les entreprises publiques, les organisations internationales, les ONG, entrepreneurs ou encore leaders communautaires.
Connectons-nous. Faites-vous connaître pour intégrer le premier annuaire des femmes leaders en RDC, produit par ONU Femmes, l'Organisation des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.
Contactez-nous par téléphone au 082 62 91 154.
Ou alors par mail à femmeleaderrdc@gmail.com.
Ingénieur Valérie, je venais de dire tout à l'heure que la loi porte quand même cette innovation en estimant que la personne qui fait l'exploitant plutôt agricole, qui ne peut pas accéder aux circuits de distribution d'eau et d'énergie, il peut trouver des sources alternatives. Et tout ouvrage, n'est-ce pas, pour s'approvisionner en eau et énergie par un exploitant agricole est exonéré de tout droit, taxes et redevances. Est-ce qu'on peut dire que c'est une avancée sur l'investissement dans les domaines de l'agriculture, ingénieur Valérie?
Les auditeurs de la radio, c'est une bonne chose, mais vous savez que l'application qui posera problème. Mais pour, s'il faut vous répondre aux problèmes techniques que vous posez concernant l'eau, faute de temps, je dois dire ceci, cela va encore impacter sur les projets parce que, à l'absence de eaux de surface, s'il faudrait, par exemple, chercher des sources alternatives, cela signifie que nous sommes soit en présence d'un aménagement d'une source, soit dans l'autre cas, on réalise un forage. Or, tout cela, c'est vraiment coûteux. Parlons par exemple, s'il faut parler de sources, la source, on ne va pas la créer, elle doit exister. Et il faudrait que cette source-là existe au moins là où, disons, en hauteur, afin de permettre un écoulement gravitaire. Mais à défaut de cela, il faudrait aussi prévoir des pompes. Parce qu'on utilise une pompe lorsque la hauteur à laquelle on voudrait avoir de l'eau est au-dessus de là où se trouve l'eau. C'est comme ça que je peux présenter les problèmes de manière vulgaire. Mais si l'eau est obtenue à une hauteur supérieure, à ce moment-là, on procède à un écoulement gravitaire, c'est-à-dire naturel. Alors, s'agissant des forages, l'opération deviendra encore compliquée parce que le forage a plusieurs étapes. Il va falloir que l'on procède par la prospection géophysique, c'est-à-dire sonder l'eau par des procédés physiques, savoir que à tel endroit, on peut recueillir l'eau à quelle profondeur. Si la profondeur à laquelle se trouve l'aquifère est tout à fait très éloignée, plus la profondeur est éloignée, plus le débit, le coût sera aussi exorbitant. Et lorsque je parle de l'aquifère, je préfère nuancer. En forage dans les cas d'espèce, on ne cherchera pas à capter les puits, les nappes phréatiques que nous appelons communément les liboulous. Non, ça ce sont des eaux tout à fait proches ici, mais on cherchera à capter vraiment l'aquifère. C'est-à-dire quoi? Il faut distinguer les eaux de surface des eaux souterraines. Et quand on parle des eaux souterraines, elles se trouvent en des profondeurs généralement un peu plus avancées. Et quand on arrive au niveau de ces eaux, il y a plusieurs catégories de eaux. Il y a les eaux de rétention et autres, mais la partie fluide, la partie qui coule dans l'aquifère, c'est ce qu'on appelle la nappe d'eau souterraine. Il y en a qui l'appellent la nappe aquifère, mais ça, ce n'est pas un vocabulaire technique. le vocabulaire requis, c'est la nappe d'eau souterraine.
Mmh.
Alors, quand on arrive à cette nappe d'eau souterraine, à supposer qu'on a capté la nappe d'eau souterraine à 80 mètres, à 100 mètres, ce n'est pas que dès qu'on la capte et on s'arrête là-bas. Non, on doit maintenant forer davantage d'aquifères pour obtenir un grand volume d'eau. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il faudrait aussi tenir compte de la recharge de la nappe. La nappe, il y a des nappes qui rechargent facilement, il y a des nappes qui ne rechargent pas facilement. Alors, si la nappe recharge facilement, à ce moment, c'est une bonne chose. On va calculer le débit de la recharge et en fait, faire en sorte que la pompe qui sera introduite dans la tuyauterie, disons dans le puits, puisse refouler de l'eau à un débit inférieur à celui de recharge, en sorte qu'il n'y ait pas d'interruption. À ce moment-là, puisque l'eau sera captée à une profondeur vraiment moindre, à des profondeurs très basses là-bas, très avancées, il faudra maintenant construire encore un château pour que la pompe puisse se refouler et capter dans des stockages, stocker dans des réservoirs.
Voilà.
Et c'est là qu'on peut maintenant créer un écoulement gravitaire en vue de l'irrigation.
Voilà.
Ingénieur
Valérie, avec ces données que vous expliquez, ce qui veut dire aujourd'hui, quand vous regardez la définition de notre politique agricole, est-ce que y a-t-il moyen aujourd'hui d'avoir des structures qui accompagnent les agriculteurs pour effectivement arriver à comprendre toutes ces données techniques avant de pouvoir faire un investissement agricole? Quand la loi dit qu'un exploitant peut le faire, il peut trouver la source lui-même. Vous avez dit que ça peut demander encore beaucoup de moyens. Mais est-ce que vous qui êtes spécialiste, y a-t-il moyen aujourd'hui d'avoir de spécialistes qui travaillent ensemble avec les agriculteurs ou ceux qui peuvent investir dans le domaine de l'agriculture pour effectivement les accompagner avec ces genres de données qui puissent leur permettre ou soit de le faire à moindre coût, mais de pouvoir produire et de pouvoir gagner plus?
Oui, s'il faut le faire à moindre coût, là, je crois qu'on peut faire recours au Service national d'hydraulique rurale. Il y a le SNHR, dont je suis maître forêt aussi. Il y a aussi d'autres structures, mais je crois qu'avec l'État, on peut gagner un peu plus. Tout comme il y a aussi d'autres structures qui font aussi des forages. Mais quand il s'agit d'un privé, quelqu'un qui paye des taxes et autres, à ce moment-là, il y a aussi d'autres paramètres qui entrent en jeu. Mais je voudrais relever le fait que si la source d'eau, si l'approvisionnement en eau pose problème, c'est que dans les projets, on doit aussi intégrer tout cela. Alors, si les forages étaient moins coûteux, mais je crois que c'est tout le monde qui en aurait, mais c'est parce que ça coûte un peu. Même si on va exonérer, mais au départ, l'investisseur doit quand même mettre la main dans la poche.
Okay.
Et c'est ça donc le problème. Ok, maintenant, je peux parler agriculture ou bien...
Allez-y, vous avez deux minutes, mais vous avez quand même fait les liens très importants, comme la loi prévoit l'accès que l'exploitant peut lui-même recourir et peut lui-même produire l'eau et l'électricité pour permettre à ce que son projet puisse marcher, c'est bien. Vous pouvez maintenant compléter votre élément sur les éléments de l'agriculture.
Ok, merci bien. Concernant l'agriculture, je crois que le contexte est tout à fait difficile au motif que c'est lui qui investit, cherche d'abord, pas le capital, mais la garantie de la sécurité.
Mmh.
Parce que vous pouvez investir, mais si demain après demain, il y a des troubles, mais vous perdez le tout. Alors, il va falloir au départ que nous ayons de la sécurité. Or, le contexte ne le permet pas. Sinon, vous aurez affaire à des petits investisseurs qui viennent avec des boutiques et dans 3, 4, 6 mois, il a récupéré son capital. Donc, nous avons ces problèmes de la sécurité, ces problèmes de mettre de l'ordre. Imaginez-vous, quand on diffuse à la radio, que les officiers militaires et policiers sont en train d'intimider le peuple avant la marche. Et l'Union européenne nous fait de telles remarques. On croit que c'est un petit problème. Mais ça intimide les opérateurs. Parce qu'on s'est dit qu'il n'y a pas une cohabitation entre les gouvernants et les gouvernés. Il faudrait qu'il y ait des mesures de confiance. Parce que ce sont des gros investissements, si bien que l'investisseur n'amortira pas son capital dans 2 ans. Non, il l'amortira dans beaucoup d'années. Alors, l'État ne peut pas à la fois nous parler de ce genre d'ouverture et entre-temps ne pas résoudre les problèmes de l'insécurité. Il y a quelqu'un qui vous a dit qu'à Bukavu, on commence à aller importer des tomates au niveau du Rwanda. Ça dénote que c'est ça le fruit de l'insécurité. Donc, les gens vont fuir parce qu'ils peuvent perdre leur capital pour rien. Et à ce moment-là, ils ne seront pas remboursés auprès des banquiers parce que de tels investissements finissent toujours par demander un emprunt au niveau des banques. Or, les emprunts font rapport entre le taux entre les taux, il y a un terme qui vient de m'échapper là, c'est-à-dire on va recourir entre un rapport au niveau des rendements financiers, des rendements économiques. Hein? Tout cela, ce sont des paramètres. Voilà un peu le problème.
Merci beaucoup, ingénieur Valérie. Les paramètres sécuritaires, c'est un paramètre très important qu'il faut prendre en compte dans le développement du secteur agricole, parce qu'on ne peut pas recevoir des gros investisseurs aujourd'hui sans qu'ils aient des garanties, des sécurisations de leurs capitaux, de leurs fonds. Merci pour toutes ces précisions. Maître Adrien, vous êtes à Kananga, au Kasaï central. Avoir la loi, c'est bien. L'inquiétude de professeur Jacques Joly par rapport à l'ouverture du secteur agricole aux opérateurs économiques étrangers, vu la modicité de moyens que les Congolais peuvent avoir pour investir dans le secteur agricole, il a peur que le marché des terres puisse exploser. Un hectare, par exemple, qui se vendrait aujourd'hui à $400 se retrouve à plus parce qu'il y aura beaucoup d'argent que les étrangers pourront injecter dans le secteur agricole. Est-ce qu'on a vraiment raison de craindre ou bien l'innovation dans la loi, c'est bien? Les Congolais ont besoin de cela, Maître Adrien.
Oui, bonjour Thierry. Bonjour à tous les amis qui sont à l'écoute. Il faut dire que cette loi vient d'abord résoudre un problème qui était urgent dans ces domaines-là, donc dans le secteur agricole. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec les amis qui estiment que les problèmes n'étaient pas juridiques. Lorsque vous prenez cette loi, elle a innové beaucoup de choses, ce qui fait qu'elle ouvre donc des portes même à des investisseurs. Ce qui fait qu'un investisseur ne pouvait pas accepter de venir dans ce domaine-là, sans toutefois qu'il y ait ce que l'ingénieur Valérie appelait une garantie. Bon, mais donc l'ingénieur Valérie s'est arrêté sur la garantie sécuritaire, mais il faut aussi parler d'une garantie juridique. C'est comme ça que cette loi vient déjà élaguer cette lacune qui était observée par tout le monde, et tout le monde avait peur autour de cela parce que l'agriculture qu'on pratiquait dans notre pays, c'était une agriculture de ventre tout simplement. C'est comme ça que la RDC ne pouvait pas se développer, la RDC ne pouvait pas faire grand-chose lorsqu'il n'y avait pas des investisseurs. Donc, à mon humble avis, il faut d'abord commencer par saluer donc cette loi, parce que lorsque j'essaie un peu de jeter un coup d'œil, il faut dire que c'est une loi qui apporte beaucoup, beaucoup d'innovation, et c'est là que j'ai rejoint. Maintenant, la crainte de mon ami et patriote ingénieur Valérie, lorsqu'il dit que si cette loi est vraiment mise en application, Pierrot, croyez-moi, ça sera un début de désenclavement et pourquoi pas un début de développement de notre pays. Mais si la loi subit les circuits habituels, parce que nous savons très bien que ce ne sont pas les lois qui manquent dans ce pays, mais c'est l'application de ces lois-là qui pose problème. Et donc si cette loi subit aussi le même sort, ça sera vraiment de la peine perdue. Maintenant, pour répondre à la crainte émise par le professeur Joly, il faut dire que, bon, cette crainte-là est à moitié justifiée, à moitié pas justifiée, parce que lorsque je prends l'aspect de ce que j'ai dit, moitié justifiée, c'est lorsque nous prenons maintenant le contexte qui est le nôtre, c'est là qu'on a peur pour dire qu'on risque de nous retrouver dans ce que certaines parties du pays se retrouvaient en matière minière. Et donc, tout le monde se rappellera de ce qui est arrivé, donc ce qui se passe dans notre pays en matière minière, donc par rapport au carré minier, et suite. Cette crainte-là n'est pas, la crainte du professeur Joly n'est pas fondée, à mon humble avis, si la loi est véritablement mise en place, parce que vous allez vous rendre compte que la loi ouvre vraiment beaucoup d'horizons. La loi facilite la tâche. Surtout, moi je suis très favorable avec cette loi en matière d'exonération. Mm-hmm. Parce que donc vous rappellerez que il y a belle lurette, lorsque je faisais un petit exemple, que nos amis qui se retrouveraient par exemple à Kananga, ils descendent vers Ilebo pour chercher leurs produits agricoles, mais ils sont obligés de payer doublement une même taxe. Donc, effectivement, Dieu merci, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les décideurs politiques au niveau des deux provinces, donc la province du Kasaï
et la province du Cap-Vert central ont compris donc le bien fondé de cette question-là. Il faut qu'ils se retrouvent autour d'une table pour régler cette question-là. Donc, je pense qu'avec cette nouvelle loi, c'est que nous nous demandons tout simplement qu'elle soit mise en application, qu'on puisse accorder tous les avantages qui s'y trouvent. Je pense que ce sera une très, très, très bonne chose.
Merci beaucoup, Maître Adrien, parce que cette question, d'ailleurs, merci d'avoir été avec nous de Kananga. Cette question des étrangers, la loi, même l'article 55 bis dit ceci, sauf preuve de carence avérée, dûment constatée par l'autorité compétente du gouvernement ou de la province, selon les cas, les promoteurs étrangers, personnes physiques désireux d'investir dans les secteurs agricoles est tenu de s'associer à un ou plusieurs Congolais de son choix dans le cadre d'un partenariat d'affaires librement négocié et conclu entre parties. Cela veut dire que l'étranger ne peut investir celle qu'au cas où on peut se rendre compte qu'il y a une carence avérée des Congolais qui n'ont pas le moyen de pouvoir s'associer avec un promoteur étranger. Et cela étant, nous accordons la parole à Félicien qui est avec nous ici à Kinshasa. Bonjour Félicien. Félicien, bonjour.
Bonsoir Félicien.
Félicien, vous êtes avec nous? Voilà. En attendant que la réalisation retrouve Félicien sur sa ligne, nous vous accordons la parole, François. Cette fois-ci, c'est avec vous. Hein. Vous êtes la même ville avec Félicien. Bonjour, François.
Bonjour, Okapi. Bonjour, les auditeurs de Radio Okapi.
On vous écoute.
J'intervenais juste pour dire ma satisfaction et ma peur et aussi donner des pistes de solutions, mais okay. J'ai comme l'impression que je ne vais pas inventer la roue. Je suis satisfait, je salue cette loi, en sens que nous sommes dans une société qui doit être régie par une loi, par des lois, mais je me demande quelle est la loi qui sera respectée jusqu'au bout, n'est-ce pas qu'elle peut aussi être foulée aux pieds comme toutes les autres lois qui ont précédé. Mmh. À propos de ma peur c'est quoi? Depuis un temps, j'ai appris à avoir peur des lois votées par le Parlement congolais. En sens que, ils mettent du vernis, hein, sur une loi qui peut vous poser problème. Et on vous présente pratiquement, c'est pas moi, un hameçon, mais derrière un appât. Et vous y allez, vous vous rendez compte que vous êtes trompé. Mm-hmm. J'ai appris, je me suis en train de me demander, est-ce que ce n'est pas une autre façon, un changement de stratégie, une autre façon de faire la guerre à la République démocratique du Congo, en prenant nos terres et en les donnant aux voisins qui ont besoin de terres arables ou de l'espace pour nourrir leurs bœufs et tout ça. Et quelqu'un disait que l'agriculture au Congo était la priorité des priorités, mais je pleure Mouzé Laurent Désiré, qui disait que le problème du Congo, ce n'était pas l'agriculture, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer la taille des ananas qui sont produits à Bouta, ou même tout ce maïs qui germe dans les sacs, destinés à être évacués, mais qui n'ont pas pu le faire à l'intérieur du pays. Mais notre problème, c'est d'abord les routes. Mmh. Et vous encouragez le villageois à produire davantage, en sens que ce qu'il a produit l'année précédente, il a vendu, et il a le courage de produire encore. Sinon, il se dira, non, je vais aller même à pied jusqu'à Kinshasa, parce que c'est là qu'il y a la vie, c'est là qu'il y a ceci ou cela, alors qu'il n'en est rien. Je disais que notre constitution, déjà, à cette époque-là, on disait qu'il y avait des problèmes dans la constitution. C'est-à-dire que quelqu'un pouvait se réveiller un matin et dire « je donne cette partie du territoire national à un étranger », ainsi de suite. Et voilà qu'aujourd'hui, je me rends compte, mm-hmm, que cette guerre-là, qui est venu, merci, avec les armes, se transforme en une bataille juridique. Et nous avons voté une loi.
Mais qui risque de se retourner contre nous-mêmes, parce que, François, j'ai rappelé encore le sénateur Jacques Joly au Sénat, il estimait que des étrangers qui ont de gros moyens risquent de venir et proposer aux Congolais qui n'ont pas de moyens autant d'argent et les gens peuvent vendre et céder les terres ou soit les terres elles-mêmes qui deviennent très chères pour que les Congolais puissent y accéder. Voilà sa peur qu'il a exprimée lors de ces débats.
Tout à fait, parce que quand on dit que celui qui peut trouver une source d'énergie ou d'eau et tout ça, qui peut aller... Moi, j'ai fait des calculs un jour là pour avoir un forage, c'est juste dans les 10 000 dollars, au moins pour avoir un forage conséquent. Et qui est ce petit Congolais-là qui a de l'argent pour se trouver une source d'eau si l'argile de zone n'arrive pas là-bas? Quoi? Les panneaux solaires, qui a de l'argent pour... Donc, voilà. C'est que ces gens-là, c'est que s'il y a des Congolais, bon, il y aura des prêtres, non? Donc des Congolais, donc des étrangers sous l'étiquette du Congolais, et le Congolais qui se présente, qui dit, écoutez, moi j'ai 60%, toi tu auras 40%, il se présente comme ça, il exploite encore et... Mm-hmm. Qu'on pense un peu à la réforme agraire.
Merci beaucoup François. C'est toutes ces peurs qui ont été exprimées par d'autres sénateurs. Et Félicien, merci d'être avec nous. Vous avez suivi, d'un côté, on estime que sur le plan juridique, c'est une garantie pour permettre à ceux qui ont des capitaux, des étrangers, des opérateurs économiques étrangers, peuvent s'associer avec des Congolais pour investir dans les secteurs de l'agriculture. Mais il y a aussi la peur de croire que ceux qui ont beaucoup de capitaux puissent faire pression sur les Congolais pour vendre, acheter les terres. Alors, il faudrait aujourd'hui définir de mécanismes clairs qui puissent permettre à ce que ces peurs soient dissipées, Félicien. Bonjour. Oui, on vous écoute, Félicien.
Oui, moi, je pense que c'est une bonne loi et ça peut aider peut-être à faire avancer les choses. Mais je ne pense pas que c'est à cause... des lois que nous n'avons pas dans ce pays, les banques d'investissement agricole ou les banques de crédit agricole pour aider les agriculteurs. Je ne crois pas que c'est à cause de la loi que nous ne sommes plus exportateurs de ceci et de cela comme nous l'avons été à l'époque coloniale, la Première République. Je pense pas que c'est à cause des lois et que aujourd'hui nous sommes importateurs de tous les denrées alimentaires dans ces pays. Et moi, je pense qu'il y a un problème de volonté politique. Les lois, nous en avons dans ces pays, mais l'application de ces lois pose toujours problème. On n'a jamais respecté les lois, on les a jamais utilisées comme on devrait le faire, et même la Constitution. Vous voyez comment on est en train de la violer, la torpiller. Moi, je pense qu'il faudra que ceux qui nous dirigent prennent conscience qu'on ne peut pas développer le pays avec les minéraux seulement. Et aujourd'hui, c'est la course aux ressources minières, c'est la course au pillage des minéraux, et l'agriculture est reléguée au second plan. Et l'État ne manque pas les moyens parce que vous apprenez, on détourne 50 milliards aussi, on détourne autant là-bas, tout ça. Mais vraiment, du côté agricole, cette agriculture, personne n'y pense. Et les gens veulent avoir vite l'argent et l'agriculture, ça donne pas l'argent le plus rapidement possible. Donc c'est ça les problèmes que nous avons, c'est les problèmes des volontés politiques. Il faudra beaucoup mettre l'accent sur ça, mais les lois n'ont jamais résolu des problèmes
merci.
Dans notre pays.
Voilà, merci beaucoup Félicien, c'est pas une question de loi, une question de volonté politique. On va terminer avec vous Justin, qui est à Fongourou, mais Joseph à Lubumbashi. Justin, merci de nous avoir rejoints. Bonjour, en une minute Justin, votre point de vue.
Bonjour Monsieur Pierrot et Lamingi, je suis très satisfait, mais vous m'avez passé la réponse, la parole un peu en retard. Je voulais dire que ce n'est pas les lois qui manquent en République démocratique du Congo, comme nos prédécesseurs l'ont souligné. C'est l'assistance et l'application de ces lois. Si on nomme aujourd'hui que tu es le ministre de telle affaire, c'est toute sa famille qui va porter les gants qu'il y a à boire et à manger. Mais mettre en application cette loi ou soit votre ministère, c'est rien de bévu et de fiasco. Moi, je vais montrer par un exemple qui se vit ici chez nous à Fungourou. Mais il y a un monsieur qui répond au nom de Walter Coutenier. Donc lui, il fait tout. pour les paysans, la désherbage, dessouchage, herçage, il donne un terrain déjà bien arrangé pour un paysan qui va faire la culture. Il donne même les intrants, même la semence. Mais à la fin du revenu, on va se partager, puisque la loi l'oblige de citer quelqu'un quand il fait de bonnes choses. C'est pourquoi je cite M. Walter Coutenier. Et c'était la tâche de l'État qui devrait faire ça. Il prépare des tracteurs, il prépare les terrains, il donne maintenant le terrain bien arrangé aux paysans. Mais imaginez un pauvre cultivateur, quand est-ce qu'il va dessoucher, quand est-ce qu'il va faire la désherbage et herçage. Le temps passe, la période de l'agriculture termine, et à la fin, personne n'a rien. Et tout ce qu'il va voir, il faut voir la liste des gens de l'État, quand là où il va vendre ça. À Fungumu, on va vendre nos produits à Colombie. C'est tout un monde fou qui attend à récolter dans ce que les cultivateurs
Merci beaucoup.
Il y a tout, monsieur Pierrot. Voilà. Laisse-moi d'abord terminer.
Oui, oui.
En tout cas, ça met à genoux la population. Exact.
Mais si vous avez suivi depuis le début de l'émission,
la plus dénigrée et
si vous avez suivi depuis le début de l'émission, nous avons évoqué la loi qui prévoit plusieurs exonérations pour les Congolais, les exploitants qui veulent bien se lancer dans le domaine de l'agriculture. Si les gens s'approchent auprès des services de l'État, ils peuvent voir quels sont le domaine d'exonération aujourd'hui. Quand vous voulez vous lancer dans les secteurs, il faut s'approcher d'eux. Et des fois, quand ils vous tracassent, leur dire exactement que voilà ce que la loi dit. C'est ça aussi l'importance d'avoir la loi à travers le pays. Joseph, on va terminer avec vous. Merci de nous avoir rejoints dans ce débat. Bonjour.
Bonjour Pierrot et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute, Joseph.
Je suis quelqu'un qui vit dans une ville frontalière. J'ai fait mon approvisionnement des fois à Kasumbalesa. Et je me réalise que de l'autre côté, il y a des étrangers qui s'investissent dans l'agriculture. Alors pourquoi avoir peur que le domaine d'agriculture dans le pays soit ouvert aussi aux étrangers? Je me réalise que peut-être en Zambie, ce ne sont pas seulement les locaux, les nationaux qui cultivent, mais il y a des fermes. C'est comme le cas au Zimbabwe. Donc, imagine quand les blancs ont été chassés, vous avez les résultats aujourd'hui. Je crois que la loi, elle est la bienvenue, mais le problème peut-être qui se posera, même pour ces étrangers qui viendront investir, c'est ce que nous avons toujours dit lorsque nous intervenons sur le sujet qui porte à l'agriculture. Ce sont les infrastructures. On ne les transporte pas par avion. C'est difficile, c'est coûteux. Les infrastructures, je crois, c'est ce qui posera toujours problème, même aux grands investisseurs qui viendront investir dans le domaine. Donc, je ne partage pas peut-être l'avis du sénateur Joly qui a peur. Bon, certes, il peut avoir peur, mais je crois qu'il y a des garde-fous. La loi n'a pas été votée comme ça, il y a des garde-fous. Ce n'est pas à dire que lorsque l'investisseur étranger viendra, la terre lui appartiendra. La loi congolaise, à ce que je sache, la terre appartient, le sous-sol et le sol appartient à l'État. Les investisseurs étrangers peut-être pourront mettre beaucoup de moyens, et lorsque l'agriculture, on y met beaucoup de moyens, on quittera l'agriculture du ventre, maintenant ça sera l'agriculture de consommation, et peut-être pourquoi ne pas demander aux investisseurs de transformer le produit de leur récolte toujours au pays, par exemple les oranges qu'ils fassent du jus ici et autres, ça pourra peut-être. Donc la loi elle doit être, je la trouve bonne, et je n'ai pas trop peur, parce que ce n'est pas une loi qu'on a dit qu'on l'a votée pour qu'elle soit appliquée. Il faut que non, c'est une
merci
loi
beaucoup,
qui permet,
Joseph.
Qui donne des ouvertures.
Merci.
Et donc moi je ne vois pas pourquoi nos compatriotes ont peur de dire qu'elle ne sera pas appliquée ou pas. C'était ça ma contribution, cher Pierrot.
Merci beaucoup, Joseph. Merci, bon début de week-end à vous et à l'ensemble des auditeurs. Vous avez été nombreux, le débat très enrichissant. qui se poursuit sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. On se retrouve le lundi pour un autre numéro de Paroles aux Auditeurs. Merci à Mimi Kindou qui était à la mise en onde, de Nico Kalamba qui était au standard et à la réalisation de ce magazine que je vous ai présenté sous la supervision de Martin Seboujangwe. Paroles aux Auditeurs, c'est sur www.radiocapi.net. Il nous reste à vous souhaiter un agréable week-end en compagnie de Radio Capi. Merci, au revoir.